Formation biblique de disciples, cours numéro 15, l'adoration et la gloire. Première partie, l'idolâtrie. Idéologie et idolâtrie dans l'Ancien Testament. Idéologie et idolâtrie vont souvent de pair. Selon l'Ancien Testament, le peuple d'Israël s'est laissé séduire par l'idolâtrie dans bien des périodes de son existence dans la terre promise. Pourquoi cette idolâtrie a-t-elle eu tant d'influence sur la vie religieuse du peuple? Je crois que l'idéologie qui se cachait derrière l'idolâtrie et qui l'a motivée a été un facteur important. Ici, j'entends par idéologie un système d'idées générales qui se trouve à la base d'un comportement individuel ou collectif. Dans le cas du peuple d'Israël, à l'époque vétérotestamentaire, il ne s'agit pas d'idées exprimées de façon explicite. Il s'agissait plutôt d'idées cachées derrière ce qu'on disait, parfois d'idées dont on n'était même pas conscient, mais qui étaient néanmoins partagées par la majorité des membres du peuple. L'objectif de cet article est d'analyser l'idéologie qui était à la base de l'idolâtrie à laquelle le peuple d'Israël s'est livré tant de fois. Je décrirai brièvement le rôle de l'idolâtrie dans l'histoire d'Israël telle qu'elle est relatée dans l'Ancien Testament. Petit 1, l'idolâtrie dans l'histoire d'Israël. L'idolâtrie a été la raison principale pour laquelle Dieu a décidé de chasser le peuple d'Israël de la terre promise et de l'envoyer en exil. Il en est ainsi aussi bien pour l'exil assyrien, qui mit fin au royaume du Nord, au 8e siècle avant Jésus-Christ, que pour l'exil babylonien, qui a concerné le royaume du Sud. Exil dit de Juda ou le royaume des deux tribus, au 6e siècle avant Jésus-Christ. Le jugement de Dieu a été provoqué par beaucoup d'autres péchés que l'idolâtrie proprement dite. Les prophètes ont également reproché au peuple une désobéissance générale aux lois de Dieu qui se traduisait entre autres par de l'injustice sociale. Mais ils présentent l'idolâtrie comme étant le péché central et dominant auquel tous les autres étaient liés. Voir par exemple 2 Rois 17, versets 7 à 23, 2 Rois 21, versets 1 à 15, Jérémie 2, Ézéchiel 8 à 11. L'idolâtrie pratiquée par Israël était de nature polythéiste. Le peuple rendait un culte à des dieux divers comme Kémosh, Milcom et Astarté. Voir par exemple 1 Samuel 7, verset 3, 1 Rois 11, verset 33. Mais le nom qu'on trouve le plus souvent et presque partout était celui du dieu cananéen Baal. C'est en effet la vénération de Baal qui a tant de fois éloigné le peuple d'Israël de son propre Dieu, l'Éternel. La première fois qu'Israël s'est laissé séduire par le culte d'un dieu nommé Baal se situe justement avant l'arrivée au pays de Canaan. En Nombre 25, versets 1 à 3, on lit qu'Israël s'accoupla avec Baal Péor à l'invitation des filles de Moab. Le lieu et le moment où cela s'est produit sont révélateurs. Baal n'était pas un dieu du désert. Il était le dieu des terres cultivables de Canaan. On croyait que Baal procurait la fécondité et la pluie dont les agriculteurs avaient besoin. Voir 1 Roi 17 et 18 et Osée 2. Apparemment, son culte était tellement séduisant que les Israélites, arrivés devant la terre promise avec son agriculture, se laissèrent séduire immédiatement. Voir aussi Osée 9, verset 10. Ensuite, après la conquête, peu de temps après la mort de Josué et des gens de sa génération, les Israélites commencèrent à rendre un culte aux Baal et aux Astartés. Cela arriva plusieurs fois pendant la période des juges. Voir Juges 2, versets 7 à 13, Juges 3, versets 7, Juges 6, versets 10 et du verset 25 à 32, Juges 8, verset 33, Juges 10, verset 6. Après que Samuel fut intervenu pour y mettre fin, voir 1 Samuel 7, versets 3 et 4, les récits bibliques ne font plus mention de la vénération de Baal jusqu'à l'époque du roi Achab, c'est-à-dire au 9e siècle avant Jésus-Christ, voir 1 Roi 16, versets 31-32. Malgré les efforts du prophète Élie, cette idolâtrie a persisté jusqu'à ce que Jéhu, chef de l'armée de Joram, fils d'Akab, la fasse disparaître d'une manière sanglante. On le voit dans 2 Rois 10, versets 18 à 28. Pourtant, il semble que sous le règne de Jéroboam II, l'arrière-petit-fils de Jéhu, c'est-à-dire au 8e siècle, le culte de Baal se soit introduit de nouveau dans le royaume du Nord. En tout cas, Osée, appelé par Dieu au ministère prophétique à cette époque-là, Osée 1, verset 1, accuse le peuple d'infidélité envers l'Éternel, le Dieu d'Israël, infidélité qui se manifestait entre autres par le culte des Baals. Voir Osée 1, verset 2, Osée 2, verset 4 à 15, et Osée 3, verset 1. On peut cependant se poser la question de savoir si en ce temps-là il s'agissait bien du culte de Baal au sens strict du terme. Selon Osée 2, verset 18, le peuple d'Israël appelait l'Éternel mon Baal. De plus, en Osée 4, le culte est pratiqué par Israël en des termes qui semblent être caractéristiques du culte de Baal, sans que cependant le prophète fasse référence à son nom. C'est pourquoi il est permis de penser qu'il s'agissait plutôt d'un javisme baalisé. Autrement dit, le culte rendu à l'Éternel comprenait tant d'éléments syncrétistes empruntés à la religion cananéenne qu'Osée le dénonçait comme étant ni plus ni moins du baalisme. Selon toute probabilité, un tel syncrétisme existait déjà durant le séjour du peuple d'Israël près du mont Sinaï, lorsqu'il a fabriqué un veau d'or pour lui rendre un culte. Le taureau jouait alors un rôle important dans plusieurs religions du Proche-Orient ancien, y compris dans celles d'Égypte et de Canaan. Ainsi, El, dieu suprême de la ville d'Ougarit, dont la religion était proche de celle des Cananéens, était désigné comme le taureau El. Au cours des siècles suivants, la chute d'Ougarit, plus ou moins 1200 avant Jésus-Christ, Baal a largement remplacé El comme dieu suprême des Cananéens. C'est sous cette forme-là que, après la conquête de la terre promise, le peuple d'Israël a fait la connaissance de leur religion. Il est vrai qu'il existe moins de preuves indiquant que Baal était lui aussi associé au taureau. Cependant, il est clair qu'une idole représentant un taurillon s'accordait vraiment avec le culte et la religion des peuples de Canaan. C'est pourquoi on peut clairement discerner des éléments syncrétistes empruntés du culte des Cananéens dans les deux veaux d'or qui ont été installés à Bethel et à Dan sur l'ordre du roi Jéroboam. 1 Roi 12, versets 28 et 29. C'est au 10e siècle avant Jésus-Christ. Comme le petit aperçu ci-dessus le montre, la religion des peuples de Canaan, dans laquelle Baal jouait un rôle principal, a assez souvent attiré les Israélites, soit sous sa forme pure, soit par l'introduction d'éléments syncrétistes dans le culte rendu à l'Éternel. Pourquoi cette religion était-elle tellement séduisante? L'influence des voisins cananéens a évidemment été un facteur important. Comme c'est souvent le cas parmi nous, les Israélites voulaient aussi être comme les autres. Moïse avait à juste raison déjà averti le peuple de ce danger, voire Deutéronome 7, versets 3 et 4. De plus, la religion des Cananéens comportait des aspects sexuels marqués. Plusieurs passages bibliques en témoignent, comme par exemple Osée 4, versets 13 et 14. Il va sans dire que tout cela était tentant pour les Israélites. Deutéronome 5, verset 8. Tu ne feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Quand l'homme perd la notion du vrai Dieu, il a un vide intérieur et il est obligé de se faire l'image d'une divinité. Même les athées sans Dieu sont religieux malgré eux et idolâtrent un être ou de la matière. Cela se passe dans le cœur, la zone la plus profonde et ignorée de nous-mêmes, puis dans la pensée et finalement se concrétise par une représentation sous une forme ou une autre. L'homme peut alors tomber dans l'idolâtrie la plus grossière, la cause première étant d'avoir perdu l'image de Dieu. La Bible nous dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, verset 15. Nous n'avons pas d'autres images à adorer, nous n'avons pas d'autres intermédiaires, pas d'autres médiateurs que Jésus-Christ seul. Mais attention, nous ne devons pas vénérer une forme de Jésus-Christ, car nous n'avons aucune description physique de lui. Par exemple, si nous prions en nous faisant une représentation mentale de quelqu'un, cette image devient une idole. Les films, les dessins, les tableaux peuvent nous influencer, surtout enfants. L'image que nous avons du Seigneur Jésus, donc de Dieu, est une image spirituelle et morale. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et donc, lorsque nous rencontrons Jésus-Christ, nous rencontrons le Père qui se révèle par le Fils. Deutéronome 5, verset 9. Tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Voici une liste de représentations que les idolâtres vénèrent et devant lesquelles ils se mettent à genoux ou se prosternent. Les statues, les crucifix, les icônes, les symboles, les photos. Des hommes ou des femmes, chacun peut avoir son idole. Un sportif, un philosophe, politicien, enfant, pape, gurus, acteur, chanteur, etc. Il y a un nombre important de chanteurs ou de groupes musicaux qui ont fait un pacte avec le diable ou qui ont été initiés dans une secte occulte. Par leur musique et les paroles qu'ils prêchent, ils incitent leurs fans à se livrer à Satan. Ceci est particulièrement flagrant dans le hard rock, le black metal, le gothique, etc. Des anges ou des saints. Croire qu'on ne peut pas s'adresser directement à Dieu, mais qu'il faut passer par des intermédiaires qu'on peut invoquer en cas de besoin. Saint Antoine, Saint Joseph, Saint Pierre, etc. Plus tous les saints locaux. Satan ou des démons. Parler avec le diable, l'adorer, faire un pacte avec lui, ou bien encore vendre son âme au diable, faire des messes noires. Les esprits se manifestent sous toute forme d'apparence. Pour les religieux, cela peut être la Vierge, Krishna, et pour les durs, c'est sous une apparence de bouc, de serpent, de dragon. Mais pour les enfants, ce sont des formes plus gentilles, telles que les fées, les lutins, le Père Noël, etc., ainsi que les héros de dessins animés et de bandes dessinées. Selon les goûts et les âges, le diable a un échantillonnage d'idoles qui correspondent aux besoins de chacun. Les enfants ont besoin de merveilleux, c'est normal et cela vient de Dieu qui est le seul vraiment merveilleux. Quand on leur raconte des histoires de la Bible, quand on leur parle du ciel et surtout du Seigneur Jésus, cela satisfait leurs besoins de merveilleux. Mais les parents qui ne connaissent pas Dieu sont évidemment obligés de raconter à leurs enfants toutes sortes de fables, de contes ou de légendes. Alors on leur donne des idoles pour remplacer le Seigneur Jésus. Par exemple, le Père Noël. Les enfants lui font des prières et lui écrivent des lettres, et ce sont les parents qui inculquent cela à leurs enfants. Non seulement ils leur mentent et perdent ainsi leur confiance, mais ils les entraînent dans l'idolâtrie. La Vierge, la Madone ou Notre-Dame de ceci ou cela, etc., parfois considérée comme co-rédemptrice et médiatrice. Certains la vénèrent, d'autres la prient seulement, avec l'Ave Maria, le rosaire, une neuvaine, pèlerinage sur les hauts lieux, etc. La nature. Pour certains, c'est la nature dans son ensemble. Pour d'autres, ce sont certaines choses, telles que la terre, Gaïa, la lune, le soleil, les étoiles, les arbres, le feu, l'eau, les animaux, etc. La Bible dit, ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, dans Romains 1, verset 25. L'argent. La Bible dit que la cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent, est une idolâtrie. Colossiens 3, verset 5. Le corps, ceux qui s'y adonnent ne vivent que pour lui. Le sexe, ils ne pensent qu'à cela, c'est une obsession. Les films et les livres pornographiques ont beaucoup de succès, ainsi que les blagues obscènes. Toutes ces choses nous souillent. Certaines passions peuvent aussi devenir des idoles auxquelles nous pouvons sacrifier notre santé, notre famille ou notre vie. Le travail, le sport, la musique, le cinéma, la moto, la voiture, la maison, nourriture, etc. Les dépendances, alcool, drogue telle héroïne, morphine, cannabis, tabac, etc. Les médicaments. Dieu est jaloux parce qu'il nous aime et si l'on veut s'unir à d'autres esprits que lui, on se prostitue. C'est le terme qui est employé par les prophètes. Et si on se prostitue, celui qui devait être notre époux légitime, c'est-à-dire notre créateur, est jaloux. Dieu nous aime tout en étant juste et il ne laisse pas le péché impuni. Ce commandement a quelque chose de particulier par rapport aux autres, car sa transgression entraîne des conséquences sur la descendance. Dans Lévitique 26, verset 1, vous ne ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni d'image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Dans Deutéronome 4, versets 15 à 17, puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez, que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux. Dans Deutéronome 27, verset 15, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Petit 2, l'hérédité. Deutéronome chapitre 6, versets 9 et 10. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur leurs enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Les patriarches, avant de mourir, appellent leurs fils et par ordre de naissance, leur imposaient les mains en leur léguant leur héritage. Mais il ne s'agissait pas seulement des biens matériels. Pour ceux qui connaissaient le Seigneur comme Abraham, Isaac et Jacob, il y avait quelque chose de beaucoup plus important que cela. C'était l'héritage spirituel, la promesse de l'Éternel. En imposant les mains à leurs enfants, ils les faisaient entrer dans l'alliance qu'eux-mêmes avaient contractée avec Dieu. Les enfants, à leur tour, transmettaient cela à leurs propres enfants. De même, il y a un héritage spirituel pour les idolâtres qui est transmis à leurs enfants jusqu'à 3 ou 4 générations. Ce sont les conséquences directes du péché d'idolâtrie. Mais ce qui est merveilleux, c'est que pour ceux qui aiment Dieu et qui gardent ses commandements, aimer, c'est obéir. Il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Ainsi, la bénédiction est supérieure à la malédiction. Nous avons tous hérité des punitions infligées à nos premiers parents, les douleurs de l'enfantement, le travail pénible et la mort. Mais il n'y a rien de plus terrible que la mort spirituelle, c'est-à-dire être séparé d'avec Dieu. Pour toutes ces malédictions, Dieu a pourvu à un remède qui est Jésus-Christ. Mais pour ceux qui rejettent la solution que Dieu offre, c'est la mort éternelle, la séparation d'avec Dieu pour toujours. Nous pouvons voir également, d'après ce verset 10 du chapitre 6 de Deutéronome, que si nous appartenons au Seigneur, il y a une nouvelle bénédiction qui commence à partir de nous jusqu'à 1000 générations après nous. Cela ne veut pas dire qu'automatiquement tous nos descendants seront sauvés, car il faudra qu'eux-mêmes se repentent de leurs propres péchés, mais au moins ils n'auront pas à souffrir du péché de leurs ancêtres. Ils seront saints, c'est-à-dire mis à part. Voir 1 Corinthiens 7, verset 14. Pour être affranchi de cette hérédité, il suffit de renoncer à cet héritage spirituel que nos ancêtres nous ont légué. Il n'est pas précisé de quelle punition il s'agit, mais dans tous les cas, il y a une conséquence spirituelle, c'est-à-dire des handicaps, des blocages, des liens qui empêchent certaines personnes de franchir la porte étroite pour se donner au Seigneur. Pour d'autres qui se sont engagés envers Dieu, mais qui n'ont pas été libérés, cela peut freiner leur marche spirituelle. C'est un peu comme si l'on marchait sur le chemin entraînant un boulet. Il peut également y avoir des conséquences psychologiques sur l'âme. Dépression, angoisse, désir d'autodestruction, débilité, etc. Et des conséquences physiques. Deutéronome 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. En vivant dans un monde idolâtre, on a tendance à imiter les autres inconsciemment, en faisant comme tout le monde. L'Église de Christ devrait au contraire influencer la société, Mais malheureusement, c'est souvent la société qui influence l'Église et y fait pénétrer des choses étrangères au Seigneur. Ce ne sont peut-être pas des pratiques grossières, telles que se mettre à genoux devant une statue, mais ce sont des conceptions, des croyances, des coutumes et des traditions qui viennent du monde. L'idolâtrie nous met en relation avec les esprits mauvais du monde invisible. Paul dit que celui qui sacrifie à une idole est en communion avec un démon. 1 Corinthiens 10, versets 19 à 22. Que faire avec nos idoles personnelles? Deutéronome 7, versets 5 à 6. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu deviennes un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Deutéronome 7, versets 25 à 26. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Deuxième partie. Autel d'adoration des faux dieux ou du vrai Dieu. Le premier autel que la Bible mentionne est celui que Noé bâtit pour offrir des sacrifices d'animaux après le déluge, au sortir de l'arche. C'est l'autel d'adoration du Seigneur. Genèse 8, verset 20. Après la confusion du langage à Babel, l'humanité s'est dispersée sur toute la surface de la terre. Genèse 11, verset 1 à 9. Dotés d'un sens inné du divin, les humains ont essayé de s'approcher de Dieu, qu'ils connaissaient de moins en moins bien, le cherchant à tâtons comme des aveugles. Acte 17, verset 27, Romains 2, versets 14 et 15. Depuis Noé, dans toute l'histoire des hommes, de nombreux peuples ont élevé des autels à leur divinité et établi des idoles, comme par exemple l'idole d'Agon, des Philistins, au temps du prophète Samuel. 1 Samuel 5, verset 2. Ainsi que la statue de Nabuchodonosor au temps de Daniel, voire Daniel 3, versets 1 à 7. Religions et individus en ont employé dans leur faux culte. Certains, dans leur éloignement du vrai Dieu, sont allés jusqu'à s'en servir pour des rites horribles dont les victimes étaient des animaux, des humains, y compris des enfants, voire Moloch, l'idole des Ammonites. En effet, les offrandes sur ces autels renforçaient la communion spirituelle des idolâtres avec les démons de leurs idoles, comme par exemple des autels élevés à Baal. Voir 1 Roi 18, versets 25 et 26. Même la famille d'Abraham avec son père vivait en adorant les idoles de la Mésopotamie. Ils avaient des autels pour adorer leurs idoles. Lorsque Dieu a rencontré Abraham, il l'a fait sortir de l'idolâtrie familiale pour l'amener au désert pour qu'il l'adore et le serve. Petit 1, autel et vrai culte en Israël. D'autres hommes fidèles après Noé ont dressé des autels réservés à leur adoration du vrai Dieu. Ainsi Abraham en bâtit à Shechem, en un certain lieu près de Bethel, à Hébron et aussi sur le mont Moria, où il sacrifia un bélier fourni par Dieu pour remplacer Isaac. Plus tard, Isaac, Jacob et Moïse en érigèrent spontanément pour adorer Dieu. Voir Genèse 12, versets 6 à 8, Genèse 13, versets 3 et 18, Genèse 22, versets 9 à 13, Genèse 26, versets 23 à 25, Genèse 33, versets 18 à 20, Genèse 35, verset 1, verset 3, verset 7, Exode 17, versets 15 et 16, Exode 24, versets 4 à 8. En même temps qu'il lui donna sa loi, Dieu commanda à Israël de bâtir le tabernacle, une tente portative appelée aussi la tente de réunion, qui serait l'élément central de la structure permettant de s'approcher de lui. Voir Exode 39, versets 32 et 40. Ce tabernacle avait deux autels, celui des holocaustes, en acacia plaqué de cuivre, était devant l'entrée et servait à offrir des sacrifices d'animaux. Voir Exode 27, versets 1 à 8, 39, versets 39, 40, versets 6 et 29. L'autel de l'encens, également en acacia mais plaqué d'or, était à l'intérieur du tabernacle, devant le rideau du lieu très saint. Voir Exode 30, versets 1 à 6, Exode 39, versets 38, 40, versets 5, et 26 et 27. On y brûlait un encens spécial deux fois par jour, matin et soir. Voir Exode 30, versets 7 et 9. 7 à 9, pardon. Plus tard, le temple en dur que Salomon construisit fut agencé comme le tabernacle avec deux autels. Petit 2, la tente véritable et l'autel symbolique. En donnant la loi à Israël, Dieu fit plus que fournir des prescriptions pour réguler la vie de ses serviteurs et leur accès à lui par les sacrifices et les prières. Bon nombre des caractéristiques de la loi constituaient ce que l'apôtre Paul a appelé une représentation typique, un exemple, une ombre des choses célestes. Hébreux 8, versets 3 à 5, Hébreux 9, verset 9, Hébreux 10, verset 1, et Colossiens 2, verset 17. En d'autres termes, en plus de guider les Israélites jusqu'à la venue du Christ, bien des aspects de la loi ont aussi constitué un aperçu des desseins de Dieu qui s'accompliraient par le moyen de Jésus-Christ. Voir Galates 3, verset 24. En effet, certains aspects de la loi avaient une valeur prophétique. Par exemple, l'agneau pascal, dont le sang servait de signe de salut pour les Israélites, préfigurait Jésus-Christ. Jésus est en effet l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, dont le sang a été répandu pour nous libérer du péché. Jean 1, verset 29 et Éphésiens 1, verset 7. Beaucoup de choses liées au tabernacle et au service dans le temple figuraient des réalités spirituelles. Voir Hébreux 8, verset 5 et Hébreux 9, verset 23. D'ailleurs, Paul parle de la tente véritable que Dieu a dressée et non pas l'homme, et ajoute: Christ est venu comme grand prêtre des bonnes choses qui sont arrivées par le moyen de la tente plus grande et plus parfaite, non faite par des mains, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Hébreux 8, verset 2 et 9, verset 11. La tente plus grande et plus parfaite était le grand temple spirituel de Dieu, dont le langage des Écritures indique qu'il est l'ensemble des dispositions par lesquelles les humains peuvent s'approcher de Jéhovah en vertu du sacrifice propitiatoire de Jésus-Christ. Hébreux 9, versets 2 à 10 et 23 à 28. Ce grand temple spirituel est le corps de Jésus qui a remplacé le temple de pierre de Salomon. L'autel de l'Holocauste avait lui aussi une valeur prophétique. Il représente la volonté de Dieu, son intention d'accepter le sacrifice humain parfait de Jésus. Voir Hébreux 10, versets 1 à 10. Plus loin dans la lettre aux Hébreux, Paul fait ce commentaire intéressant. Dans Hébreux 3, 13, verset 10. Nous avons un autel dont ceux qui font un service sacré à la tente n'ont pas le droit de manger. De quel autel parlait-il? Beaucoup d'exégètes affirment que l'autel d'Hébreux 13, verset 10, est celui qui sert à l'Eucharistie, c'est-à-dire le sacrement par lequel le sacrifice de Christ est censé se renouveler pendant la messe. Mais le contexte du passage est clair. L'autel dont Paul parle est symbolique. Plusieurs biblistes donnent un sens figuré au mot autel dans ce texte. Pour le jésuite Joseph Bonsirven, cela s'accorde parfaitement avec tout le symbolisme de l'épître aux Hébreux. Il dit aussi, dans la langue chrétienne, le mot autel est d'abord employé dans un sens spirituel, et ce n'est que depuis Irénée, et surtout Tertullien et Saint-Cyprien, qu'il est appliqué à l'Eucharistie et plus particulièrement à la table eucharistique. Comme le déclare une revue catholique, l'usage de l'autel s'est répandu à l'ère constantinienne avec la construction des basiliques. Il est certain, lit-on dans Rivista di Archeologia Christiana, une revue d'archéologie chrétienne, que pendant les 2 premiers siècles, on ne peut pas parler d'un lieu fixe de culte, mais d'assemblée liturgique tenue chez des particuliers dans des pièces qui, dès la fin de la cérémonie, retrouvaient leur fonction première. Ainsi, la Babylone religieuse, l'Empire romain reconstitué en la personne du Vatican, a maintenu les croyants dans un esclavage religieux en réappliquant les rituels religieux du sacerdoce lévitique du temple de Salomon en s'écartant de la voie et du sacrifice de Jésus. La vérité du symbolisme des 2 autels du temple, l'autel des sacrifices et l'autel des parfums, est que l'autel extérieur des sacrifices représente bien la croix avec le sacrifice de Jésus qui a donné son corps en sacrifice visible, l'agneau de Dieu, et que l'autel intérieur des parfums représente l'offrande de la vie du Christ à Dieu comme un bon parfum intérieur. Petit 3, l'autel actuellement. Depuis la Pentecôte, Jésus au ciel qui a envoyé l'Esprit à ses disciples a établi un nouveau temple, le corps de Christ, l'Église, qui est le temple du Saint-Esprit. L'adoration ne se fait plus par les chrétiens à Jérusalem et au temple, mais au Père en esprit et en vérité. Le vrai autel, maintenant, c'est le cœur des croyants qui s'offrent à Dieu en Jésus-Christ et qui le servent, l'adorent. De son côté, la Civiltà Cattolica, l'Empire romain, c'est-à-dire la Babylone religieuse, dit ceci: l'autel est le point central non seulement de l'Église édifice, mais aussi de l'Église vivante. Cependant, Jésus-Christ n'a pas institué la moindre cérémonie religieuse faisant appel à un autel, pas plus qu'il n'a ordonné à ses disciples d'accomplir des cérémonies qui en nécessitent un. Ces mentions d'un autel en Matthieu 5, versets 23 et 24 et ailleurs ont trait à des pratiques religieuses qui avaient cours chez les Juifs, mais elles n'indiquent nullement que ses disciples devaient adorer Dieu au moyen d'un tel objet. L'historien américain George Foote Moore, né en 1851 et mort en 1931, a écrit: le culte chrétien dans ses grandes lignes a toujours été le même, mais à la longue, les rites décrits par Justin au milieu du IIe siècle ont perdu leur simplicité pour se muer en cérémonial imposant. Les rites catholiques et les cérémonies religieuses publiques sont si nombreux et si compliqués qu'ils en constituent une manière d'étude, la liturgie dans les séminaires catholiques. George Foote Moore dit encore: cette tendance inhérente à tout rituel s'est beaucoup accentuée par l'influence de l'Ancien Testament, quand le clergé chrétien s'est posé en successeur de la prêtrise du système précédent. Le costume somptueux du grand prêtre, les habits cérémoniels des autres prêtres, les cortèges solennels, les chœurs des lévites chantant des psaumes, les volutes de fumée dans le balancement des encensoirs, tout cela semblait un modèle divin de l'adoration religieuse qui accréditait une église rivalisant de pompe avec les cultes antiques. De nombreux rites, cérémonies, vêtements et autres accessoires de culte de plus d'une religion chrétienne ne s'inspirent pas des enseignements des évangiles, mais des coutumes et des rites juifs ou païens. L'Encyclopædia Catholica affirme que le catholicisme a hérité l'usage de l'autel du judaïsme et en partie du paganisme. Minucius Félix, apologiste du 3e siècle, a écrit que les chrétiens n'avaient pas de sanctuaire ni d'autel. Le dictionnaire encyclopédique Religioni Emiti, religion et mythe, va dans le même sens. Les premiers chrétiens ne voulaient pas utiliser l'autel afin de se démarquer des cultes juifs et païens. Tout cela est donc de l'idolâtrie de Babylone, c'est-à-dire le Vatican, détournant le peuple de Dieu de la vraie adoration du Seigneur. Étant donné que le christianisme reposait essentiellement sur des principes spirituels et moraux faits pour être acceptés et appliqués au quotidien et dans tous les pays, il n'y avait plus besoin d'une ville sainte sur la terre, ni d'un temple matériel pourvu d'autels, ni de prêtres humains de rang particulier et vêtus d'habits distinctifs. Dans Jean 4, versets 21 et 23, L'heure vient, a dit Jésus, où ce n'est ni dans cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Les vrais adorateurs adoreront le Père avec l'esprit et la vérité. La complexité des rites et l'emploi d'autels de la part de nombreuses religions vont à l'encontre de ce que Jésus a précisé sur la façon d'adorer le vrai Dieu. Ainsi, avant la venue de Jésus et jusqu'à nos jours, la guerre des autels, la guerre de l'idolâtrie, des faux dieux avec le vrai Dieu, continue toujours. C'est une guerre d'adoration et de pouvoir. Troisième partie, l'adoration et la gloire. Petit 1, l'adoration de Dieu. Dans Luc 4, verset 8, Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est ainsi que Jésus a résumé et défini l'adoration authentique. Il a affirmé son caractère exclusif en reprenant les premières déclarations officielles faites à ce sujet par Moïse dans le Deutéronome et en particulier au chapitre 6, au verset 4 et 5. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est par ces paroles que fut établie en quelque sorte la charte de l'adoration du Tout-Puissant, définissant la base et le but de ses relations avec l'homme. Dieu seul a le droit d'être adoré par l'homme, car il est un Dieu jaloux, il ne donne pas sa gloire à un autre, et il en est le Créateur. Voir Apocalypse 4, verset 11. Il en est digne à cause de son œuvre de rachat en faveur de tous les hommes. Dans Apocalypse 5, verset 13, À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et au verset 12, L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Cette adoration exclusive de Dieu est un commandement à garder dans son cœur, à mettre en pratique et à enseigner. Et les versets 4 à 9 de Deutéronome 6 sont comme la confession de foi juive. Jésus en a aussi souligné l'importance en le désignant comme le premier et le plus grand commandement. Voir Marc 12, versets 28 et 29. Il n'est pas rare dans la religion parisienne, dans la région parisienne où les synagogues se sont multipliées ces dernières années, de voir à droite de la porte d'entrée des appartements occupés par des juifs la petite boîte allongée contenant ce texte du Deutéronome. Peut-être n'est-il qu'une formule rituelle pour beaucoup d'entre eux. Qu'en est-il pour les chrétiens? Qu'ils prennent garde eux aussi de ne pas tomber dans le formalisme. Les vrais adorateurs sont donc ceux qui ont compris l'importance vitale de la communion et poursuivent sans cesse à devenir un avec le Seigneur. Ils ont compris que les désirs et délices de Dieu doivent devenir leur passion et leur priorité. Ils ont compris que la vraie adoration envers le vrai Dieu est fondée sur leur révérence, leur prosternement et leur consécration, c'est-à-dire leur service sur l'autel, la plateforme de base de l'amour relationnel avec le Seigneur. Petit 2, les vrais adorateurs. Vous remarquerez que Jésus ne dit pas que Dieu cherche l'adoration, il est plutôt en quête des vrais adorateurs. En effet, l'adoration étant une expression du cœur de l'adorateur, celui qui adore, Dieu s'intéresse donc à la source qui produit toutes les ressources de la vie, le cœur de l'homme. Que disent les saintes écritures à ce sujet? Dans Proverbe 4, verset 23, Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans Matthieu 15, verset 19, Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Les vrais adorateurs sont donc ceux qui ont compris l'importance vitale de la communion et poursuivent sans cesse à devenir un avec le Seigneur. Ils ont compris que les désirs et délices de Dieu doivent devenir leur passion et priorité. Ce sont des passionnés de Dieu, faire sa volonté est devenu leur seul désir. Ils ont compris que l'adoration est plus qu'un moment de culte dominical, plus qu'un ensemble de paroles flatteuses accompagnées d'une musique douce. L'adoration pour eux est avant tout un état d'esprit de prosternement révérentiel et de service consacré. Oui, car notre communion avec Dieu se fait via notre esprit qui est le point de contact de l'humain avec le divin en esprit. L'homme ne peut pas entrer en communion avec Dieu sans qu'il ait l'Esprit de Dieu en lui et qu'il soit conduit par ce même Esprit. Pour être un adorateur, il faut tout d'abord qu'il se convertisse au Seigneur, puis qu'il lui donne sa vie pour le servir, lui le vrai et grand Dieu. Dans Romains 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Éphésiens 6, verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Adorer Dieu en esprit, c'est reconnaître que l'adoration est notre raison d'être. En tant qu'être spirituel régénéré en Jésus-Christ, nous réalisons combien la vérité selon laquelle nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance est vraie. Dieu étant esprit, nous le sommes aussi. À juste titre, on ne peut entrer en communion avec Dieu que celui qui est né de lui et qui a son esprit en lui. Jean 1, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Les vrais adorateurs ont compris que l'adoration est avant tout une attitude intérieure qui se traduira par la suite de façon extérieure par des actes appelés expressions d'adoration, c'est-à-dire danser, chanter, parler, servir, offrir, produire les fruits de l'esprit, donner sa vie pour les autres. Adorer Dieu en vérité, c'est le servir d'après sa parole. Sa parole est la vérité. Nous ne pouvons pas apporter sur l'autel céleste de Dieu un feu étranger. Dieu a des standards et des exigences. Être en dehors de ces normes et principes, c'est être un faux adorateur. Oui, si le Christ a parlé de vrais adorateurs, c'est qu'il y en a forcément des faux. Qui sont-ils? Vous l'aurez deviné. Il s'agit ici des gens doubles et hypocrites, de ceux et celles qui honorent Dieu des lèvres, mais dont le cœur est éloigné de lui, qui sont superficielles et ne portent pas de bons fruits, car on reconnaît l'arbre à ses fruits. Petit 3, la gloire de Dieu. La gloire, en hébreu kabod et en grec doxa, c'est un terme fréquemment employé avec des sens assez différents. Le terme hébreu dérive d'une racine qui exprime l'idée de pesanteur. Ce rapprochement entre le poids et la gloire a été fait par l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 4, verset 17, un poids éternel de gloire. De là découle un premier sens, ce qui recouvre, d'où ornement, parure. Exemple, dans Matthieu 6, verset 29, Salomon dans toute sa gloire, c'est-à-dire revêtu de ses ornements royaux. Dans Ésaïe 35, verset 2, la gloire du Liban, les forêts de cèdres qui couvrent ses pentes. Dans Psaume 49, verset 17, la gloire d'une maison. Dans Matthieu 4, verset 8, dans Apocalypse 21, verset 26, la gloire des royaumes, des nations, leur richesse, la chevelure et la gloire de la femme, dans 1 Corinthiens 11, verset 15, la force et la gloire des jeunes gens, dans Proverbe 20, verset 29, les pères sont la gloire des enfants, dans Proverbe 17, verset 8, Jéhovah est la gloire d'Israël dans Jérémie 2, verset 11. De l'idée de richesse et de parure, de ce qui donne de l'éclat, nous en arrivons à l'éclat lui-même. La gloire de Dieu est considérée tout d'abord comme le rayonnement qui se dégage de sa personne, rayonnement qui éblouit, aveugle et inspire à tous crainte, respect, admiration et adoration. Dans Ézéchiel 1, verset 28, une splendeur semblable à celle de l'arc dans la nuée, telle était sa gloire. Dans Exode 24, verset 17, sa gloire semblait un feu dévorant. C'est cet éclat qui empêchera Moïse de contempler la face de Jéhovah, car nul ne peut la contempler et vivre. Voir Exode 33, versets 18 et 20. Voir Luc 2, verset 9. Acte 7, verset 55. Apocalypse 21, verset 23. Encore un pas de cette manifestation en quelque sorte physique de la splendeur divine, nous arrivons à une conception purement spirituelle. La gloire de Dieu, c'est l'éclat de ses perfections infinies, la révélation de sa sainteté, de sa puissance, de son amour. Et c'est ainsi que si l'homme ne peut contempler cette gloire face à face, du moins elle pourra lui apparaître comme réfléchie par un miroir. 2 Corinthiens 3, verset 18. La gloire divine nous est en effet révélée par l'œuvre créatrice et en particulier par l'homme formé à l'image de Dieu. Voir 2 Corinthiens 11, verset 7. Elle transparaît dans les manifestations de sa justice souveraine, dans cette sainteté qu'aucune souillure ne saurait atteindre. Voir Ésaïe 6, verset 3, dans son amour rédempteur manifesté en Jésus-Christ. Voir Jean 1, verset 14, Hébreux 1, verset 3. Chaque étape de l'histoire d'Israël, si pleine de bénédictions et de délivrances, porte comme l'empreinte de la gloire divine. Elle couronne le Sinaï, demeure unie aux tables de la loi enfermée dans l'arche, voir Psaume 78, verset 61. Elle est dans la nuée qui guide la marche au désert. Elle remplit le temple, plane sur Sion, voir Zacharie 2, verset 5. En Christ, le Seigneur de gloire, elle ne cesse de se manifester par sa sainteté, ses miracles, lors de sa transfiguration dans 2 Pierre 1, verset 17, par sa résurrection dans Romains 6, verset 4, et lors du jugement qu'il présidera dans la majesté royale et avec les prérogatives divines. Voir Matthieu 16, verset 27 et Matthieu 25, verset 31. Une autre expression, rendre gloire ou donner gloire à Dieu. Dans Romains 14, verset 11, cela signifie louer, célébrer ses perfections, lui rendre honneur. Le mot grec doxa, qui signifie renommée, honneur, rend parfaitement le sens à donner au terme gloire dans cette expression fort courante, voire doxologie. Rendre gloire à Dieu, c'est reconnaître tout d'abord qu'à lui seul doivent revenir nos hommages et que c'est à lui seul que nous sommes redevables de toute grâce. 1 Timothée 1, verset 17, Jean 9, verset 24. Mettre son espoir dans les choses qui viennent du monde, c'est rechercher une vaine gloire qui bientôt sera enlevée, gloire qui trompe ceux qui s'y confient. Dans Ésaïe 20, verset 5, toute gloire appartient à l'Éternel et doit être cherchée en lui. Jean 5, verset 44, 1 Thessaloniciens 2, verset 6. Rendre gloire à Dieu ou le glorifier, c'est aussi à l'exemple du Sauveur refléter sa gloire en notre propre vie par nos œuvres. C'est ainsi que Paul sera appelé à glorifier Dieu par sa mort. Voir Jean 21, verset 19, 1 Corinthiens 6, verset 20, Éphésiens 1, verset 12. La gloire, enfin, c'est l'état de béatitude dans lequel se trouve Dieu. C'est la splendeur du ciel, récompense promise au bon serviteur que le maître invitera à entrer dans sa joie. Matthieu 25, verset 21. Cette gloire, héritage promis aux fidèles, Jésus l'a possédée avant son incarnation. Elle lui a été rendue après son ascension. Voir Jean 17, verset 5 et Luc 24, verset 26. C'est par Jésus que nous sommes appelés à en posséder l'héritage. 2 Timothée 2, verset 10, Colossiens 3, verset 4 et Romains 5, verset 2. Notre corps même participera à cette glorification. Voir 1 Corinthiens 15, verset 43. Dans Psaume 16, verset 9 et Psaume 30, verset 12, ainsi que Psaume 57, verset 9, l'hébreu kabod est rendu dans nos traductions par cœur. dans la version second, par âme ou langue, sans doute parce que l'âme est l'élément supérieur de la personnalité, le reflet de la gloire divine, et la langue l'instrument qui sert à glorifier Dieu. Quant à la dénomination mystérieuse les gloires, voir Jude 8 et 2 Pierre 2, 11, elle désigne les créatures de l'ordre le plus élevé, c'est-à-dire les anges. Petit 4, adoration et gloire de Dieu. Les vrais adorateurs vont par leur cœur, leurs pensées, leurs paroles, leurs comportements, œuvres, services, amour passionné, fidélité, etc., toucher en profondeur le cœur du Père qui va réagir en venant à leur rencontre. Cet élan du Père vers ses fils et sa gloire. En fait, la manière de vivre des adorateurs, leur recherche amoureuse du Père, les entraîne dans une sphère appelée adoration qui touche le cœur du Père venant le rencontrer dans sa gloire. On peut donc dire que l'adoration des adorateurs, dont le cœur cherche intensément le Père, est la dimension spirituelle forte, le point de contact entre le cœur de l'adorateur et la gloire manifestée du Père lors de la rencontre avec son Fils. Donc le cœur de l'adorateur plus la gloire du Père, ça correspond à l'adoration. Ainsi, le cœur des fils adorateurs est uni à la gloire manifestée du Père. Donc l'adoration et la gloire interagissent ensemble par le mouvement passionné du cœur de l'adorateur vers le Père et de la gloire manifestée du cœur du Père venant à la rencontre de son Fils. Il y a une puissance dans l'adoration. Dans l'Ancienne Alliance, les Juifs n'avaient pas accès à la sainte présence de Dieu, excepté les sacrificateurs. Et depuis la mort et la résurrection de Jésus, les données ont changé. Dans cette nouvelle alliance qui est la nôtre, Dieu se révèle à nous, et la première chose frappante, c'est que nous prions un Dieu qui nous aime beaucoup et qui le manifeste. J'ai remarqué une chose avec notre Dieu. Il est un Dieu de toute puissance, de toute gloire et de toute force, mais il a tout de même une faiblesse. C'est lorsqu'il voit un cœur qu'il adore en toute sincérité, humilité et amour. Ah, bien-aimé, le cœur de Dieu est vraiment touché dans l'adoration. Il en est très sensible et vient manifester puissamment sa gloire et son amour vers le cœur de l'adorateur, comme pour Moïse sur le Sinaï. Dans l'adoration, nous vivons la gloire de Dieu et sa plénitude, car ce que l'eau est pour les poissons, la présence glorieuse de Dieu l'est pour l'adorateur. On a l'impression d'être en Éden avant la chute. Dans les temps de louange en musique et chant, lorsque les adorateurs touchent le cœur de Dieu, la présence de sainteté de Dieu arrive et de ce fait, Dieu va manifester sa gloire. En effet, la sainteté de Dieu fait partie de sa gloire. Lorsque la sainteté de Dieu se manifeste, elle vient en précurseur comme un manteau que Dieu jette avant de venir personnellement rencontrer l'adorateur. Lorsque la sainteté se fait sentir, la gloire de Dieu vient progressivement, s'intensifie et se densifie. Dieu manifeste sa gloire dans l'adoration et touche le cœur des adorateurs, s'unissant à eux pour changer les choses sur terre, car la gloire de Dieu est descendue au milieu d'eux. Le point de contact entre le cœur vrai de l'adorateur et la gloire de Dieu lorsqu'elle le rencontre et la sainteté que Dieu envoie en avance, précédant sa venue glorieuse vers l'adorateur. Lorsque la gloire du Père se manifeste sur la terre, les choses de ce monde sont bouleversées et ébranlées. L'onction est liée à la révélation et la manifestation de la nature du Fils de Dieu. Quant à la gloire de Dieu, elle est liée à la révélation et la manifestation du Père. Ainsi comme le Père est plus grand que le Fils, sa gloire manifestée est plus forte et plus intense que l'onction révélée du Fils. C'est pour cette raison que lorsque la gloire du Père descend sur terre, les choses élémentaires du monde et la matière de ce monde sont secouées, terrifiés, ébranlés et tremblent. Un amoureux, c'est-à-dire un adorateur de Jésus, a besoin de lui, ne veut pas être privé de son amour. Là où Jésus va, il va aussi, il soupire après sa présence, après sa sainteté et ressent ces choses à chaque moment, car c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail en lui, d'où l'intérêt d'avoir une bonne communion avec lui. Un adorateur est simple et ne s'excite pas pour rien. Il n'est pas aliéné, mais simplement est pris d'amour et de passion pour le roi des rois et ne veut pas s'en séparer. Dans les assemblées, ce ne sont pas forcément ceux qui crient le plus fort qui adorent en vérité. Beaucoup de vrais adorateurs sont calmes et parfois placés au fond de la salle, mais avec une telle puissance en eux qu'on ne peut l'imaginer. Ils ont compris que les vraies choses se passent dans le lieu secret et pas dans la foule. Expression d'adoration. L'adoration est avant tout une attitude du cœur et elle se voit ensuite extérieurement par le corps. En hébreu, le mot adoration signifie se prosterner face contre terre. C'est en général ce qu'on fait lorsqu'on adore, car le Saint-Esprit nous pousse très souvent à le faire. C'est notre façon de nous humilier en reconnaissant qu'il est Dieu, l'unique et le véritable Dieu El Shaddai. Dans nos assemblées, les chrétiens ont du mal à se mettre même à genoux pour ne pas salir leur costume, alors que des grands hommes de Dieu tels qu'Abraham, Moïse ou David se prosternaient face contre terre dans la présence de Dieu sur la poussière des déserts. Lorsque nous voyons également les autres religions telles que l'islam ou le bouddhisme, les personnes en prière se prosternent. Et nous qui prions le vrai Dieu, pourquoi refuser de s'humilier devant lui? Soyons des adorateurs quand ce sont ces hommes et ces femmes que l'Éternel recherche. Présentons-nous avec hardiesse devant le trône de gloire en nous humiliant et adorons notre Père de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Approchons notre Seigneur et il s'approchera de nous. Scellons une alliance d'adoration car c'est son désir. Il veut manifester sa gloire. Adorons-le. Fin du cours. Questions sur le cours. Première question, qu'est-ce que l'idolâtrie en général? Donnez des exemples bibliques. Qu'est-ce que l'idolâtrie visible dans le monde païen et l'idolâtrie invisible dans le cœur des croyants? Petit 2, qu'est-ce qu'un autel dans la Bible? Expliquez-vous par des versets bibliques. Pourquoi les croyants adorent-ils Dieu et les hommes païens adorent-ils les idoles? Troisième question, qu'est-ce que l'adoration? Chez un vrai adorateur, qu'est-ce qui attire la gloire de Dieu dans sa vie? Pourquoi? Quatrième question, qu'est-ce que la gloire de Dieu? La sainteté joue-t-elle un rôle dans la manifestation de la gloire de Dieu? Si oui, laquelle?